Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie de la QPP, édition du 1er mai 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler des élections à l'EPQ et du projet de loi 15. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va parler cette semaine des étapes pour prescrire un vaccin dans le cadre d'une consultation voyage. Alors, on commence en force avec les élections à l'OPQ. On vous rappelle que la date limite pour voter, c'est ce 3 mai à 16h30. C'est un vote électronique qui est simple et rapide, alors on vous encourage à prendre 5 minutes pour aller voter. On est prêt à commencer avec notre premier gros sujet, le projet de loi 15. Le projet de loi 15 fait partie du plan santé du gouvernement et il a pour but de rendre le système de la santé et des services sociaux plus efficace. Les consultations sur le projet de loi ont débuté et elles vont se poursuivre au moins jusqu'au 23 mai. Dans la lecture actuelle du projet, la pharmacie communautaire semble être peu touchée, mais c'est important quand même de s'y attarder parce que ça pourrait modifier certaines choses. Puis bon, lorsqu'il y a un projet de loi, c'est une occasion aussi de faire d'autres demandes. Tel que mentionné, le projet de loi 15, c'est une partie du plan santé qui vise à mettre le patient au centre du système public. Le plan santé va se déployer avec plusieurs projets de loi. On a déjà eu le projet de loi 3, le PL10, le PL11. Il y a d'autres projets de loi qui sont à venir, entre autres pour décloisonner les professions. Ceci pourra entraîner des modifications aux activités du pharmacien. Le PL15 va aussi mener à la création de Santé Québec, qui est un genre de société publique comme Hydro-Québec, qui va permettre de décoller l'administratif du politique. Ce type de structure existe ailleurs dans d'autres provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan. Comme je vous l'ai dit, le projet de loi 15 touche peu les pharmacies. Toutefois, on se rend compte que les comités régionaux sur les services pharmaceutiques, CRSP, semblent avoir été oubliés. En conséquence, de notre côté à la QPP, on va faire certaines demandes pour nous assurer qu'il y a une présence forte des pharmaciens au sein des instances décisionnelles, que ce soit dans des instances régionales de Santé Québec ou dans les actions qui relèvent en ce moment des CRSP. Puis pourquoi on fait ces représentations-là? Bien parce que ça prend une organisation territoriale des services pharmaceutiques dans le but de bien coordonner les activités. Je vais vous donner un exemple ici avec la vaccination dans une résidence pour personnes âgées. Donc, supposons, vous, comme pharmacien, vous prenez une entente avec la résidence pour dire, moi, je vais aller vacciner les gens. Puis, en conséquence, vous réservez un certain nombre de doses pour vacciner les résidents de cette résidence-là. Mais là, vous apprenez que le 6 va se charger de l'opération de vaccination sans prendre connaissance des services que vous avez déjà prévu offrir. Ça, ce sont des situations qu'on a vécues, qu'on a déjà vues. À ce moment-là, la pharmacie se retrouve prise avec des doses excédentaires de vaccins qu'elle ne peut pas retourner, puis pour lesquelles elle avait déjà planifié de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est un exemple de coordination régionale qui est importante pour arriver à bien organiser les services. Puis pour ça, faut se parler, il n'y a pas de solution miracle, ça prend de la discussion pour arriver à bien organiser ça. Nous, c'est quelque chose qui est important dans l'organisation des services sur le territoire. Au-delà de ça, je vous ai dit que quand il y a un projet de loi qui est gros, comme le PL15 qui touche beaucoup, beaucoup de lois et de règlements, mais c'est aussi l'occasion pour nous de faire d'autres demandes. On peut penser ici, du côté de la QPP, à trouver des façons de réduire votre fardeau administratif en laissant tomber certains rapports d'approvisionnement systématiques ou encore pour toucher l'encadrement des PSP, donc amener un encadrement beaucoup plus serré que ce qui existe en ce moment. Aussi, c'est l'occasion pour nous de ramener des changements qu'on a déjà demandés concernant des activités des pharmaciens. Entre autres, vous le savez, avec la pandémie de COVID-19, il y a eu plusieurs assouplissements dans vos activités. Nous, on veut donc qu'on retire les délais qui sont inscrits dans les règlements ou différentes limites. Je vous donne un exemple d'une ordonnance pour infection urinaire. En ce moment, le règlement dit que l'ordonnance, l'évaluation, doit remonter à moins de 5 ans. Mais supposons que vous avez une patiente que ça fait 5 ans et 1 mois. Est-ce que c'est si différent que si ça faisait 4 ans et 11 mois dans votre décision de prescrire ou pas un traitement? Ce qu'on veut faire, c'est de ramener votre jugement clinique, votre jugement professionnel au cœur de la décision au lieu d'avoir des dates plus ou moins arbitraires au sein des règlements. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on voudrait faire. Autre exemple, avec la prolongation, Mais si votre patient est stable, ça serait bien pour vous de pouvoir prolonger l'ordonnance davantage que les 12 mois qui sont prévus en ce moment au règlement. Encore une fois, toujours en fonction de votre jugement clinique. On aimerait aussi que vous puissiez administrer des médicaments sans limite aux trois conditions existantes. En ce moment, vous pouvez administrer un médicament pour des fins de démonstration, aux fins d'urgence ou pour la vaccination. Mais pourquoi vous ne pourriez pas administrer mensuellement la B12 de votre patient si ça s'y prête dans votre pharmacie? On veut aussi ajouter d'autres conditions mineures. Ça, c'est des demandes que vous nous avez faites. Je pense ici aux oxures, conjonctivites bactériennes, virales et plusieurs autres. Donc ça va faire partie de nos demandes. Le décloisonnement pourrait venir dans un autre projet de loi, mais c'est important de répéter nos demandes pour vous simplifier la vie et simplifier la vie de vos patients aussi dans vos activités cliniques. C'est maintenant l'heure de notre question de la semaine. Cette semaine, la question qu'on nous a posée, c'est quelles sont les principales considérations à tenir en compte concernant le vaccin Vivotif? On se replace dans le cadre d'une consultation santé-voyage. Si vous n'êtes pas familier avec le Vivotif, c'est un vaccin oral contre la typhoïde. La typhoïde étant une maladie fébrile aiguë qui est causée par une bactérie, la Salmonella typhi. La typhoïde, de son côté, est présente surtout dans les pays en voie de développement. C'est une transmission par voie fécale orale. On va revenir au vaccin. On va aller voir dans le protocole d'immunisation du Québec, le PIC, puis on va regarder les indications qui sont associées à un vaccin. Pour le Vivotif, on voit la lettre R avec plusieurs indications. Quand on voit la lettre R au PIC, au protocole d'immunisation du Québec, ça veut dire que le vaccin doit être recommandé pour les indications qui sont présentées. Par exemple, pour le Vivotif, ça concerne les voyageurs de 5 ans et plus qui vont se rendre dans un pays d'Asie du Sud. Comme vaccinateur, votre responsabilité, c'est d'informer les personnes qui sont visées par cette indication. Mais comme c'est la lettre R, le vaccin ne va pas être gratuit. Si le vaccin était dans un programme où c'est gratuit pour certaines indications, bien à ce moment-là, le PIC indiquerait la lettre G à côté de l'indication. Donc, G pour gratuit, R pour recommandé. Il existe aussi dans le PIC la lettre A, A pour autorisé. Ça veut dire que c'est permis d'administrer le vaccin, mais que vous n'avez pas l'obligation d'informer les personnes visées. On revient donc G pour gratuit, R pour recommandé, vous avez le devoir d'informer, mais ce n'est pas payé, et A pour dire que c'est autorisé. Puis pour un même vaccin, c'est possible que la lettre soit différente selon l'indication. On prend ici l'exemple du vaccin contre le Zona. Donc maintenant, le vaccin est gratuit chez les gens de 80 ans et plus non immunodéprimés. Mais chez ces personnes-là, de 50 à 79 ans non immunodéprimés, la lettre que vous allez retrouver, c'est la lettre R pour dire que le vaccin est recommandé, mais il n'est pas payé dans le programme québécois d'immunisation, le PQI. C'est ce qui répondait à la question de la semaine, mais comme c'est une question qui revient quand même souvent, on a décidé de vous transmettre d'autres informations liées à la vaccination. On va parler maintenant un peu du registre de vaccination. Tous les vaccins administrés doivent être inscrits au registre. La saisie doit être faite dans les 2 jours ouvrables après l'administration du vaccin. Ça s'applique que ce soit un vaccin payant, gratuit et même les vaccins oraux. On comprend que ça peut être un petit peu plus compliqué pour un vaccin oral puisque c'est pas vous-même qui allez l'administrer. À ce moment-là, c'est possible de confirmer avec le patient que le vaccin a bien été pris. Puis ensuite, vous allez l'inscrire au niveau du registre de vaccination, toujours dans les 2 jours ouvrables après l'administration du vaccin. La prochaine information que je vais vous partager concerne la prescription par une infirmière pour un vaccin. Une infirmière ne peut pas prescrire un vaccin sauf une IPS. Ça ne veut pas dire qu'une infirmière ne peut pas vacciner, ne peut pas obtenir de vaccin en pharmacie, mais ça ne passera pas par une ordonnance. L'infirmière en pharmacie doit faire une demande pour usage professionnel, sauf si c'est un vaccin qui est distribué gratuitement dans le cadre du PQI. Si on revient au Vivotif, par exemple, celui-ci n'est pas gratuit. L'infirmière doit donc faire une demande au niveau du pharmacien. La demande doit inclure les coordonnées, le nom et la forme du vaccin, la quantité et la mention « usage professionnel ». Puis ensuite, cette requête-là doit être indiquée au dossier pour usage professionnel de l'infirmière. Vous remettez donc le vaccin pour usage professionnel à l'infirmière suite à sa requête. L'autre alternative à ça, c'est que le pharmacien lui-même prescrive le vaccin et le remette au patient. Le pharmacien qui a suivi ses formations de base en immunisation ainsi que la formation sur la consignation des informations au registre de vaccination peut prescrire tous les vaccins. Donc, ce que vous faites en pharmacie, le pharmacien prescrit et ensuite l'infirmière va administrer le vaccin. Ça, c'est la façon de travailler si l'infirmière ne fait pas une requête pour usage professionnel. Et je le répète ici, ces requêtes-là, ce sont pour les vaccins qui ne sont pas prévus dans le cadre du programme québécois d'immunisation, donc les vaccins gratuits. La dernière information que je vous transmette concernant les vaccins, c'est la responsabilité professionnelle. C'est une question qu'on reçoit quand même assez souvent. On se demande si le pharmacien prescrit et qu'il n'administre pas le vaccin, est-ce qu'il peut se dégager de sa responsabilité professionnelle ou comment ça se passe tout cela? Si c'est le pharmacien lui-même qui prescrit le vaccin, il est responsable de son évaluation. Dans le cadre de son travail, toutefois, il peut collaborer avec d'autres personnes, entre autres pour l'évaluation. Par exemple, l'infirmière peut avoir participé à l'évaluation en recueillant des informations, en allant consulter le registre de vaccination, mais le pharmacien ne peut pas simplement exécuter, remplir une ordonnance aveuglément sans lui-même porter un jugement clinique sur la situation. Là où c'est un petit peu différent, c'est au niveau des vaccins gratuits. Si l'infirmière a fait toutes les démarches de façon autonome, la facturation au dossier du patient doit être faite avec le numéro de permis du pharmacien. L'infirmière, elle est tout à fait habilitée, outillée pour évaluer un patient et décider si elle administre ou pas un vaccin de façon autonome. Mais on a une règle administrative avec la RAMQ où dans le dossier, lorsqu'on fait la réclamation pour recevoir la rémunération qui est prévue, bien là, on doit absolument indiquer le numéro de permis du pharmacien dans la réclamation dans le dossier patient parce que les infirmières ne sont pas reconnues là, dans la RAMQ pour la rémunération. Le pharmacien n'est pas responsable des actes de l'infirmière, même si c'est son nom, son numéro de licence qui se retrouve dans le dossier de patient. Ce qui est important pour vous, c'est de bien tenir vos dossiers pour distinguer qui a fait quoi. Le pharmacien a quand même une responsabilité dans ses dossiers patients relative à l'exactitude des informations au dossier. Le pharmacien ne peut pas juste tout déléguer sans exercer un minimum d'encadrement ou de supervision ou mettre en place des procédures, puis s'écarter, s'éloigner de tout ça pour dire « bon, l'infirmière était responsable, c'est l'ATP qui fait l'entrée au dossier, puis moi je m'occupe de rien ». Non, il doit exercer quand même un minimum de vigilance pour s'assurer, par exemple, qu'il n'y ait pas de fraude. Donc, ça demande une supervision du personnel technique. Je reviens sur l'importance de bien documenter pour dire, bien, c'est l'infirmière qui a fait l'évaluation, l'infirmière qui a administré le produit, etc. Et vous, ce que vous faites, c'est vous allez superviser le volet facturation, le volet consignation au dossier. Donc, c'est comme ceci qu'on garde une trace de qui a fait quoi. Ça serait difficile pour un pharmacien de dire qu'il n'est pas responsable s'il a été complètement négligent et qui a fait aucune supervision ou qu'il n'y a pas de procédures qui ont été faites. J'espère que ces informations vont répondre à bien de vos interrogations et j'attends déjà vos prochaines questions. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la QPP. Je vous remercie de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association. Les équipes en pharmacie ont accès au bulletin de la QPP, à notre site internet ainsi qu'à nos formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et ainsi accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et je vous dis à bientôt.